Alors pour commencer, d'abord, peut-être la question à se poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de fake news ou d'infox? Comme le disait Cécile, en citant Arnaud Mercier, les rumeurs, ça existe depuis très longtemps. Les théories du complot aussi. Une date intéressante, c'est la date de création d'un site qui s'appelle Hoaxbuster, que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, qui est un site qui vérifie des rumeurs en circulation sur Internet, qui a été créé en 99. Donc ça montre bien que voilà, il y a eu un besoin de contre-discours par rapport aux théories du complot dès les débuts de l'Internet grand public. Donc qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau derrière ce phénomène de fake news? Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui se passe aujourd'hui. Comment on pourrait essayer de le caractériser? On pourrait dire quatre choses. On pourrait d'abord dire que ce qui caractérise les fake news, c'est, comme leur nom l'indique, d'être des contenus qui vont imiter des productions journalistiques. Qui vont imiter des productions journalistiques pour être utilisées, dans certains cas, pas toujours, à des fins de propagande politique, ou alors qui vont être utilisées pour générer des revenus en jouant notamment sur le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux. Et puis, ce qui fait qu'on a une controverse si importante autour des fake news aujourd'hui, c'est aussi parce que les réseaux sociaux sont devenus une des principales sources d'informations, notamment pour les plus jeunes, pour les 18-25 ans, et qu'à ce titre, les fausses informations vont directement concurrencer les vraies sur le marché de l'information. Alors, je reviens sur chacun de ces points. Des contenus qui imitent des productions journalistiques. Alors, voilà quelques exemples de fausses informations qui ont beaucoup circulé sur le Facebook français pendant la campagne électorale 2017. À noter que, effectivement, lorsque les informations apparaissent sur Facebook, elles apparaissent toujours sous le même aspect. Elles ont la même graphie, les mêmes codes. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je vous en lis quelques-unes. Nouvelle loi, les célibataires de plus de 30 ans devront accueillir un migrant. Macron supprime les allocations familiales. Macron, deux points, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Aïe, Bruxelles a sorti le texte pour la suppression du liquide en 2018. Remplacer des jours fériés chrétiens par des fêtes musulmanes. Ou une information, alors elle est intéressante, celle en bas à gauche, qui est une pétition contre une supposée taxe sur les potagers en vigueur dès 2017, alors qui part en fait d'une fausse information disant que Macron allait mettre en place une taxe sur les potagers en 2017, qui a généré une mobilisation contre cette loi qui n'a jamais été nulle part, enfin qui n'a jamais été même dans aucun tuyau, et qui a créé une mobilisation d'ampleur, hein, ça a fini avec plus de 10 000 signataires, je crois, contre la pétition sur les potagers, mais qui n'existait pas. Alors quand on voit ces fausses informations, il y a différentes techniques derrière. Parfois, on va avoir ce qu'on appelle du blanchiment d'informations parodiques. J'imagine que vous connaissez le site Logographie, qui est un site parodique sur Internet et les réseaux sociaux, qui est très populaire. Par exemple, Macron, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée, c'est tiré d'une blague du Gorafi qui avait titré ça dans un de ses articles, mais pour faire rire son public, parce qu'on reproche souvent à Emmanuel Macron d'être très élitiste, loin du peuple, etc. Sauf que c'est repris ensuite par certains sites qui vont le décliner au premier degré en disant non, non, Emmanuel Macron a vraiment dit ça. Sinon, ce qu'on sent bien dans ces différents exemples, c'est quand même une teneur très anti-macroniste, très anti-migrant, voire xénophobe. Enfin, on voit le inquiété autour de l'accueil des migrants, remplacer des jours fériés chrétiens par des fêtes musulmanes, etc. Et ça, c'est pas du tout anodin. C'est parce que justement, ces fausses informations aujourd'hui, elles sont utilisées dans un but de propagande politique par des réseaux qui sont souvent situés à l'extrême droite du spectre politique, ce que des journalistes ont appelé la fachosphère, c'est-à-dire des sites d'information, eux se qualifient de réinformation. Alors c'est pas toujours des sites, des fois c'est uniquement des groupes sur Facebook qui vont produire des fausses informations dans le but de chercher à influencer l'opinion. Et ça, c'était très vrai en 2017, année d'élection présidentielle. Pourquoi Macron était une des cibles principales? Bah, tout simplement parce qu'il était perçu par les militants d'extrême droite comme le principal opposant à Marine Le Pen. De la même façon, pourquoi on parle de l'accueil des migrants, des droits des musulmans, etc. Parce que ce sont des sujets autour desquels se mobilisent les militants d'extrême droite. Je vais revenir dessus après parce que ça va être le principal sujet aujourd'hui. Autre point, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces fake news, elles peuvent aussi servir à gagner de l'argent en jouant sur le modèle économique des réseaux sociaux et en jouant sur le marché publicitaire de la publicité en ligne. Un exemple qui est très connu lorsqu'on parle de fake news et de modèle économique, c'est celui en haut à gauche des ados dans les Balkans. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, elle est assez connue. En fait, des journalistes de BuzzFeed s'étaient rendu compte pendant la campagne américaine que une centaine de sites de fake news pro-Trump étaient localisés en Macédoine. Et donc les journalistes s'étaient demandé, mais qu'est-ce que font tous ces sites en Macédoine ? Est-ce que l'équipe de Trump a contacté des gens en Macédoine pour déléguer la communication politique ? Et en fait, ils étaient allés sur place, ils étaient tombés sur un village, donc qui est devenu célèbre, j'ai oublié son nom, mais qui est devenu le village de la fake news en Macédoine, où ils ont trouvé des ados, mais de 15, 16, 17 ans, qui avaient comme occupation de produire des fausses informations pro-Trump, mais ils n'étaient absolument pas militants, ils s'en fichaient complètement de la présidentielle américaine. Tout ce qui les intéressait, c'était de gagner de l'argent. Comment ils s'y prenaient ? Ils faisaient un site de fausses informations sur lequel ils hébergeaient de la pub. Ce que tout le monde peut faire, si vous faites un site, vous pouvez héberger de la pub dessus. Si vous avez beaucoup de gens qui viennent sur votre site, qui voient les pubs ou qui cliquent sur les bannières, ça va vous rapporter de l'argent. Ça, c'est le modèle économique principal du web. Jusque-là, tout va bien. Ils faisaient des fausses informations pro-Trump parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était des informations qui étaient très partagées sur le Facebook américain. Donc, ils allaient sur le Facebook américain. Grâce au modèle économique de Facebook, ils arrivaient à cibler des populations plutôt pro-Trump. Ils diffusaient leurs fake news, par exemple sur Hillary Clinton qui a eu toutes les maladies du monde possibles et imaginables, le pape qui soutenait ouvertement Donald Trump, etc. Et puis, ils visaient des publics particuliers qui, à leur tour, allaient partager cette fausse information par le biais des partages successifs. Ça prenait beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et comment eux gagnaient de l'argent ? Tout simplement parce que les internautes américains, ils cliquaient sur le lien, ils arrivaient sur le site macédonien, ils voyaient des pubs, ils cliquaient sur la pub, ou alors juste en la voyant, ça rapportait de l'argent à ces ados. Et ces ados pouvaient gagner, alors je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 5 000 $, 5 000 $ par mois en faisant avec leur site de fake news, alors que le salaire moyen en Macédoine, c'est 400 €. Donc non seulement ça leur permettait de gagner de l'argent, mais ça leur permettait de gagner beaucoup d'argent. Autre exemple connu, c'est Paul Horner, donc lui il est américain, il a fait beaucoup de sites de fake news pro-Trump pendant la campagne, alors que lui-même se décrit comme peut-être pas un militant démocrate, mais il se décrit pas du tout comme un militant pro-Trump. Lui, il est très cynique. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il a dit « je voulais montrer à quel point le public de Trump était stupide ». Parce que pour partager des informations aussi stupides, ça montre au grand jour que vraiment, vous êtes bête. Alors beaucoup de cynisme et puis pas beaucoup de réussite, parce que je suis pas sûr que la démonstration ait été concluante. En tout cas, lui aussi gagnait beaucoup d'argent avec ses sites. Lui, c'était plutôt autour de 3 000 $ par mois. Il avait juste 5-6 sites, mais qui fonctionnaient très bien. Donc, voilà, ça joue aussi sur le modèle économique des réseaux sociaux et des grandes plateformes. Je le disais, pourquoi ça fait controverse ? Ça fait controverse parce que les réseaux sociaux sont un moyen d'information devenu principal. Là, l'image que vous avez, c'est un extrait du Digital News Report du Reuters Institute en 2017 qui porte sur 38 pays différents. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre que dans ces 38 pays, les plus jeunes s'informent essentiellement en ligne, mais que parmi les différents moyens de s'informer en ligne, les réseaux sociaux sont la source principale d'information chez les 18-25 ans, et cela dans les 38 pays. Et donc, ce n'est pas que des pays du Nord, il y a aussi beaucoup de pays du Sud. Donc, ça concerne beaucoup de monde, et c'est bien pour ça que ça fait controverse aujourd'hui, parce que ces fausses informations, elles concurrencent directement les productions des médias traditionnels sur ces réseaux. Alors, on peut inverser le questionnement en se demandant, mais après tout, que ce soit produit à des fins de propagande ou que ce soit produit pour des raisons économiques, il y a une grosse question derrière qui est pourquoi les gens les partagent ? Pourquoi les gens les partagent ? Parce que est-ce que pour qu'il y ait un public qui permette de gagner autant d'argent, c'est que ce public est assez nombreux, si on pense que ça va influencer l'opinion au point d'influencer le résultat d'une élection, c'est qu'on pense que le public va le partager en masse. Alors, on n'a pas beaucoup d'études sur les fake news en particulier, sur le partage de fake news. Là, il y en a une américaine qui a été diffusée la semaine dernière, qui montrait que justement, c'est en fonction de l'âge, il y avait en fonction des orientations politiques, les conservateurs en partageaient beaucoup plus que les progressistes, et que les plus âgés, en fait, en partageaient plus que les plus jeunes. En France, on n'a pas beaucoup d'enquêtes. On en a une, à ma connaissance, qui est de Coralie Lecaroff et Mathieu Foulot, où justement, ils ont fait des entretiens avec des gens qui partageaient des fausses informations pour savoir quelles étaient leurs motivations. Et ce qui était intéressant dans leur enquête, c'est que le profil de ces personnes était vraiment très varié. C'est-à-dire que on avait des gens qui vraiment appartenaient à des clans politiques assez différents, avaient des situations assez différentes. Par contre, ils avaient tous un point commun. Ils partageaient tous une extrême défiance à l'égard des médias traditionnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouvait chez tous ces gens qui partageaient des fausses informations. L'idée que, de toute façon, les médias, on pouvait tous les mettre dans le même sac, on ne pouvait pas leur faire confiance, et que donc s'informer de manière alternative, c'était quasiment un geste citoyen. Surtout, ce que nous apprennent la sociologie des rumeurs et des théories du complot, c'est que la rumeur, c'est aussi une activité sociale. C'est-à-dire que partager une fausse information, ça ne veut pas forcément dire qu'on y croit. D'ailleurs, nous, je suis sûr qu'on a tous défendu, partagé des rumeurs dans nos vies. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, sur les paquets de Marlboro, on voyait 3K, on se demandait, mais est-ce qu'il n'y a pas le Ku Klux Klan qui est derrière tout ça ? Bon, évidemment, si on nous avait demandé, est-ce que le Ku Klux Klan finance Marlboro, on n'en savait rien. Et puis, en fait, on s'en fichait. Ce qui comptait, c'était d'en parler. Bon, ça, la rumeur, elle a un rôle social qui est de faire parler les gens, de maintenir le lien social. On n'y croit pas forcément dur comme fer aux rumeurs, mais voilà, ça fait parler à la machine à la café, dans les cours d'école, dans les transports en commun. Et puis surtout, la rumeur et les théories du complot sont aussi des formes de prise de parole politique. C'est-à-dire que partager des fausses informations politiques, c'est aussi dire quelque chose. C'est aussi dire quelque chose, là aussi on a des enquêtes là-dessus, où quand des gens partagent des fausses informations, on leur demande « mais vous êtes sûr de ce que vous partagez ?» Et les gens disent « non, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça pourrait être vrai. » Et puis de toute façon, ce que ça dit, c'est que voilà, il y en a marre, etc., etc. Un exemple tiré de l'actualité, par exemple sur les gilets jaunes, il y a beaucoup de journalistes qui ont pointé le nombre de fausses informations qui circulaient dans les groupes de gilets jaunes. Mais on peut aussi faire l'hypothèse que l'information soit vraie ou pas, c'est pas si important que ça pour les gens qui les partagent dans les groupes de gilets jaunes. Par exemple, si vous partagez une photo qui montre un rassemblement avec 10 000 personnes en gilets jaunes, sauf que la photo elle date d'il y a 4 ans et qu'elle était, elle avait rien à voir avec les gilets jaunes, pour ceux qui les partagent, que ce soit vrai ou pas, c'est secondaire par rapport à la prise de parole qu'il y a derrière, qui est de dire « je soutiens ce mouvement, c'est un mouvement d'ampleur », etc., etc. Donc il y a une forme de prise de parole politique à partir d'éléments imaginaires, mais voilà, c'est plus simple que d'être crédule ou de ne pas être crédule, le fait de partager, c'est plus complexe, excusez-moi, que la crédulité de partager des fausses informations. Voilà, ceci étant dit, allons voir un petit peu sur le terrain. Moi, j'avais observé la base de données du Décodex. Alors, la base de données du Décodex, elle est tirée de la cellule de fact-checkers du Monde, qui s'appelle les décodeurs. Peut-être que vous voyez qui sont les décodeurs. Donc, ils vont vérifier sur les réseaux sociaux les rumeurs qui circulent. Et donc, en 2017, ils ont rendu publique leur base de données sur les rumeurs qu'ils avaient fact-checkées dans l'année. Donc, ils avaient vérifié et auxquelles ils avaient apporté des démentis. Dans cette base de données, il y avait 101 fausses informations qui avaient donné lieu à la production d'un millier d'articles. Ça a occasionné plus de 4 millions de partages sur le Facebook français. Quand on regarde ce qu'on trouvait dans cette base de données, on s'aperçoit que 40% étaient des fausses informations politiques. Ce qui tendait à confirmer l'idée qu'aujourd'hui, ces fausses informations, elles sont utilisées principalement dans un but de propagande politique. Alors, un petit biais là-dedans qui est que c'est la base de données des décodeurs du Monde. Donc, les décodeurs du Monde, lorsqu'ils vont d'abord vérifier des rumeurs politiques. En plus, on est en 2017, année d'élection. Donc, forcément, ça gonfle cette proportion de rumeurs politiques qu'on trouve en son sein. Mais surtout, ce qui était intéressant aussi là-dedans, c'est que si les rumeurs politiques ont occasionné la plus grande partie des rumeurs et des articles, à l'inverse, les rumeurs qui sont le plus partagées sur le Facebook français, ce sont des rumeurs qui portent sur la santé. C'est plus de la moitié des partages dans cette base de données qui sont des fausses informations liées à la santé. Alors évidemment, on a les réseaux anti-vaccins qui sont extrêmement présents. Mais on a d'autres groupes ou pages Facebook, Santé Plus Magazine, qui a plusieurs millions de gens qui suivent la page, avec des posts du type « Votre médecin vous cache ce fruit miraculeux qui va vous protéger du cancer ». Voilà, donc c'est pas des fausses informations qui cherchent forcément à convaincre les gens de voter pour tel ou tel candidat, loin de là. C'est des fausses informations plus anodines, si je puis dire. Mais en tout cas, dans le domaine de la santé, elles sont beaucoup plus partagées. Et l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que si elles sont plus partagées dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a aussi un coût social qui est moins important. Je reviens sur ma petite étude sur ceux qui partageaient les fausses informations. Ce qui ressortait des entretiens dans l'enquête de Coralie Le Caroff et Mathieu Foulot, c'est que pour ceux qui partageaient des théories du complot, il y avait un coût social à le faire. C'est-à-dire que quand on est sur Facebook, qu'on a dans ses contacts ses amis, sa famille, et qu'on partage beaucoup de théories du complot, bah, y a quand même, on a souvent des gens dans notre entourage qui vont dire « Qu'est-ce que tu fais là? Tu partages n'importe quoi, c'est pas vérifié. » Et des gens qui vont potentiellement se détourner de nous parce qu'on a partagé ces informations. Donc eux témoignaient beaucoup de ça, de dire « C'est une forme d'activisme parce que faut accepter le coût social. » On pourrait faire l'hypothèse que dans le domaine de la santé, le coût social il est moins important. Dans la mesure où qu'on partage des informations sur un fruit miraculeux, sur les vaccins, etc., ça prête moins à être mis au banc de la société ou du cercle familial ou amical. Bref. Alors, intéressons-nous maintenant aux fake news politiques, parce que c'est ça le sujet du jour, la propagande politique. Dans ces fake news, dans cette base de données qui portait spécifiquement sur la politique, il y en avait 234. Et lorsqu'on s'intéresse aux personnalités qui étaient ciblées dans ces fausses informations, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron est loin devant, avec 111 articles spécifiquement sur lui. À quoi ça s'explique ? À ce que je vous expliquais en introduction, à l'idée qu'elles sont produites, ces fausses informations, principalement par des réseaux d'extrême droite, et que, dans le cadre de la campagne électorale présidentielle de 2017, cibler Macron, c'est un moyen de décrédibiliser le principal opposant de Marine Le Pen. Donc Macron, c'est vraiment la cible principale. On retrouve ensuite Hillary Clinton, avec des formes de traduction des fake news qui circulent beaucoup aux États-Unis. Quand ce n'est pas Clinton ou Macron, c'est beaucoup la figure de l'État, en général, du gouvernement. On retrouve aussi beaucoup Brigitte Macron, avec ce thème « Quel âge a-t-elle réellement ?» Ça intéresse beaucoup. Donc a priori, elle aurait 120 ans, on n'est pas au courant. Non, j'exagère, mais elle aurait 10 ans de plus encore, bref. Et puis on trouve David Douillet, bon ça c'est toujours la petite surprise de cette base de données, de la présence de David Douillet, et en fait qui s'explique par une ancienne rumeur qu'il avait eu sur lui, qui disait qu'il avait détourné l'argent des pièces jaunes, de l'opération pièces jaunes. Il était parti avec les sacs d'argent, qu'il s'était acheté un coupé sport avec, voilà. Normal. Et pourquoi ça revient justement pendant la campagne présidentielle ? Parce que le titre de l'article qui propage ça, c'est « Les revenus de la France d'en haut, le scandale Douillet refait surface ». Donc voilà, les revenus de la France d'en haut, c'était très une rengaine qu'on voyait beaucoup. Surtout, ce qui est hyper intéressant dans ces fausses informations politiques, quand on regarde de quoi elles parlent, la très très grande majorité, elles parlent de quoi ? Elles parlent d'impôts et de dépenses publiques. Elles parlent d'impôts, il y a trop d'impôts. Elle parle d'impôts, c'est toujours les mêmes qui en payent, les riches sont exonérés, les pauvres en payent trop. Exemple, la taxe sur les potagers, voilà ce genre de choses. Et la dépense publique, elle est mal gérée. Elle est mal gérée, les députés font n'importe quoi avec l'argent public, il y a des grands travaux qui sont pas finis, etc., etc. Mais ça, c'est plus de la moitié des fausses informations politiques, ça parle de ça, de l'impôt, de l'argent public. Ensuite viennent les questions des droits des minorités, juives et musulmanes, principalement musulmanes quand même. Là aussi, c'est lié au réseau qui les produisent. La santé d'Hillary Clinton, bon, voilà, d'autres questions un peu secondaires. Surtout la question de l'impôt. Donc, je vous disais, c'est 119 articles, mais c'est surtout plus de la moitié des partages. Quand on regarde ce qui est partagé, plus de la moitié des fausses infos politiques qui sont partagées, c'est l'impôt, c'est la dépense publique. Intéressons-nous maintenant à celles sur l'immigration, parce que dans la base de données du Décodex, elles sont décorrélés, alors qu'on aurait pu mettre immigration avec les sujets politiques. Parmi ces sujets sur l'immigration, au final, ça parle assez peu des minorités. Ça parle beaucoup des migrants. Alors, je vous ai donné l'exemple en introduction de cette fausse information qui disait « Les célibataires devront accueillir un migrant chez eux », qui a été celle la plus partagée. Mais là aussi, lorsqu'on prend les fausses informations sur les migrants, le prisme principal, c'est la question de la dépense publique. Quel est l'argent qu'on investit pour les accueillir ? avec toujours cette rengaine, qu'est-ce qu'on fait pour nos SDF chez nous, pourquoi on les aide pas autant, etc. Les contraintes d'accueil, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et puis, en fait, les questions de multiculturalisme sont un peu secondaires par rapport à vraiment la question de l'argent. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressortait de cette étude, se dire que les fake news, c'est aussi une forme de discours politique, hein, que les gens qui les partagent aussi pour dire quelque chose. C'est pas forcément qu'ils y croient dur comme fer, c'est aussi pour dire... Moi, je suis contre cet usage de l'argent public. Je suis contre cet accueil 3 étoiles, je mets des guillemets, évidemment, quand je dis ça, aux migrants, etc., etc., avec une forte tonalité anti-système, mais anti-système de droite, d'extrême droite, et pas de gauche ou d'extrême gauche, une tonalité xénophobe. Et puis, surtout, cette idée de jouer sur l'impôt et la dépense publique comme très vieux levier de mobilisation, quoi, qui est, voilà, pour susciter la mobilisation. On va appuyer là-dessus, sur l'argent, l'argent public, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui avec les groupes de Gilets jaunes sur Facebook, par exemple, que c'est aussi la question principale, le levier principal de mobilisation. C'est vraiment ça. Ce qu'on fait de l'argent public et de l'impôt. Et puis ce cadrage qui est toujours un cadrage en termes d'injustice. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce qui fait que sur Facebook, on a des outils de propagande qui sont particulièrement performants? Je vais sortir un peu des fake news, je vais faire un pas de côté, je vais y revenir, pour parler d'une autre affaire qui est l'affaire russe aux États-Unis, c'est-à-dire la manière dont une agence proche du Kremlin a fait financer de la publicité politique pendant la campagne américaine pour faire élire Trump. Alors, on ne sait pas le succès que ça a eu, mais c'était leur objectif. Premier point, ce qui est très intéressant dans ce qu'a fait l'IRA, donc c'est l'Internet Research Agency, c'est ça l'agence qui est proche du Kremlin, c'est rien d'illégal. En fait, rien d'illégal. Tout ce qu'a fait l'IRA, c'est utiliser les possibilités de ciblage publicitaire que lui offre Facebook. Qu'est-ce que permet Facebook ? Facebook permet à n'importe quel publicitaire de cibler très précisément un public particulier. Une enquête du Washington Post a révélé, je crois que c'était l'année dernière, que Facebook, pour chacun de ses utilisateurs, détient 99 types de données différents. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, Facebook peut savoir quel est notre niveau de revenu. Est-ce qu'on vit à côté de notre famille ou pas? Est-ce qu'on vient d'avoir un nouveau boulot? Qui est notre employé? Est-ce qu'on bosse dans l'industrie? C'est quoi notre titre? Alors, on pourrait descendre parce qu'il y a 99 critères, hein. Ils connaissent aussi le métrage carré de notre appartement, alors évidemment nos préférences sexuelles, nos préférences politiques, nos goûts musicaux, nos goûts, enfin tous nos comportements d'achat, qu'est-ce qu'on achète en ligne ou pas. On est extrêmement ciblé et catégorisé dès lors qu'on utilise Facebook parce que toutes nos données sont réutilisées par la plateforme. C'est le modèle économique de la plateforme. Facebook, c'est gratuit parce que notre temps de cerveau disponible, j'ai envie de dire, est rentabilisé par la pub qu'on y voit. Et donc, la grande force de Facebook, c'est de dire à des annonceurs, vous voulez parler à des jeunes filles de 18-25 ans qui vivent en ville, qui écoutent du rap et qui ont acheté une paire de tennis dans les 10 derniers mois? C'est pas au pif, c'est très précisément, je peux vous dire, voilà, j'ai 50 000 personnes qui correspondent à cette définition. Donc ça, c'est le modèle économique qu'on appelle le marketing ciblé, très performant. Sauf que, quand il est utilisé à des fins politiques, ça devient une arme de propagande extrêmement performante. C'est ce qu'a fait l'IRA lors de l'affaire russe pendant la campagne américaine. Mais sauf que, ils ont été très, très futés, ils n'ont pas cherché à convaincre des démocrates en les faisant voter Trump, parce qu'ils savent bien que ça marche pas. Vous n'allez pas, un démocrate convaincu, vous n'allez pas le faire voter conservateur, et l'inverse vaut aussi. Et même les gens qui hésitent, a priori, c'est pas en voyant des pubs politiques sur Facebook qu'ils vont vraiment changer d'avis. Parce que l'influence sur l'opinion est plutôt limitée, a priori. Non, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de démobiliser certaines parties de l'électorat démocrate, et notamment les Afro-Américains, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les Afro-Américains, ils votent très majoritairement démocrates. Comment ils s'y sont pris? À cette époque, sur Facebook, on pouvait diffuser des publicités en ciblant les groupes ethniques, ce qu'on ne peut plus maintenant. Mais déjà, ils pouvaient cibler, je veux que ce soit des Noirs, je veux que ce soit des Asiatiques, des Blancs, etc., qui voient cette pub. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais il n'y a pas besoin, en fait, pour le faire. Eux, par exemple, ils ont diffusé des publicités. Ils ont demandé à Facebook que cette publicité ne soit vue que des gens qui avait suivi le groupe Black Lives Matter. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est un mouvement pour la défense des droits des Noirs américains contre les violences policières. Donc, il y avait plusieurs millions de gens qui avaient aimé ce groupe. Donc, évidemment, les gens qui ont aimé le groupe Black Lives Matter sont soit des Afro-Américains ou en tout cas des gens qui sont susceptibles, enfin qui sont intéressés à la question des défenses des droits des Noirs américains. Et donc, ils ont dit à Facebook, moi, ma pub, je veux que ce soit ces gens-là qui la voient. Et qu'est-ce qu'ils diffusent? Ils diffusent, par exemple, des fausses pubs d'un faux groupe qui s'appelle Blacktivist, qui dit, par exemple, n'oubliez pas que les Black Panthers, qui est un groupe qui a été formé pour protéger les Noirs du Ku Klux Klan, il a été démantelé par le gouvernement américain, alors que le Ku Klux Klan, il existe toujours. Ou alors il diffusait des informations en disant Hillary Clinton, elle soutient les policiers dans le cadre des violences contre les Noirs américains, ce qui n'était pas vrai, mais c'était des fausses informations. Avec des messages très clairs, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voter? Est-ce que vous allez vraiment aller voter alors que vous allez élire quelqu'un qui soutient les policiers dans les violences faites aux Noirs, etc. Donc l'enjeu, c'était de dire, vous êtes Noir américain, vous n'allez pas voter démocrate. Ok, vous ne voterez pas conservateur, mais n'allez pas voter, ça ne sert à rien. Donc, c'est l'alliance entre la communication politique et le marketing ciblé qui permet cette force de frappe vraiment très, très importante. Cas plus récent, en France, on s'aperçoit que, alors c'est plus l'IRA maintenant, mais c'est aussi des agences proches du Kremlin qui adoptent des stratégies similaires en visant notamment les minorités ethniques en France et notamment les minorités noires ou les minorités musulmanes. Voilà une enquête du Monde de novembre 2018, donc c'est vraiment récent, qui portait sur une campagne de propagande que Facebook avait déjouée en langue française. Et c'était la première fois qu'une campagne de cette ampleur était démantelée en France, qui était sur Facebook, mais aussi sur Instagram, qui appartient à Facebook. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des comptes, soit de cette jeune femme, qui en fait n'existe pas, qui s'appelait les femmes musulmanes, et qui portait sur la mode islamique, la mode et beauté dans le monde musulman. Voilà, donc les belles femmes musulmanes avec le foulard, les belles tuniques, les beaux vêtements, des belles photos, les modes de vie, etc. Un peu glamour, quoi, un peu glamour. Et les autres, c'était des groupes de beauté destinés aux femmes noires, donc les cosmétiques pour les peaux noires, les shampoings, etc. Mais c'était toujours lié sur les femmes, beauté, lifestyle et origine ethnique. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que ces groupes parlaient de ces questions-là. Et puis, d'un coup, petit à petit, elles se mettaient à parler d'Emmanuel Macron, alors qu'elles n'en avaient jamais parlé, ces femmes-là. Et puis, elles se mettaient à dire que Emmanuel Macron, c'était vraiment un pourri, qu'il était raciste, qu'il était anti-musulman, etc., etc. Et puis, de façon assez insinueuse, comme ça, s'installait une forme de prise de parole politique au quotidien contre Emmanuel Macron. Et donc, Facebook s'est rendu compte que toutes ces pages étaient gérées par une seule et même agence, une seule et même adresse qui était liée au Kremlin. Et donc, il n'y avait jamais eu de femmes musulmanes ou noires derrière ces groupes. Mais l'idée était de viser ces publics-là via des questions lifestyle, mode, etc. Voilà. Donc je vais terminer juste, est-ce que c'est efficace? En fait, on a quand même des études qui portent sur la réception de ces formes de propagande, qui montrent que c'est quand même assez limité. C'est-à-dire que quand on interroge les gens sur les pubs politiques auxquelles ils ont été exposés sur Facebook quelques semaines ou quelques mois après, généralement, ils ne se rappellent plus pour quel candidat c'était, et la plupart ne se rappellent même pas avoir vu de publicité politique. Donc, faut pas trop en faire. C'est pas les fake news qui ont fait élire Trump. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pour autant, il y a quand même un pouvoir de mise à l'agenda derrière ces fausses informations, parce qu'elles sont tellement partagées massivement qu'elles vont réussir, dans les fils d'actualité de nombreux citoyens, à faire éruption et à faire parler de sujets qui potentiellement ne les intéressaient pas. Si vous votez, mais sans être trop politisé, que les questions d'immigration, ça ne vous intéresse pas, mais que dans votre fil d'actualité, tous les jours, vous voyez des prises de position anti-migrants, etc., ça ne va pas forcément vous faire devenir anti-migrant. Par contre, ça va vous faire dire que les questions migratoires, c'est des questions importantes auxquelles il faut s'intéresser, et quand on vote, il faut s'intéresser à ce que les candidats disent sur l'immigration, etc. Donc, il y a quand même ce pouvoir-là qui est assez important, qu'on n'arrive pas à quantifier, mais qu'il ne faut pas négliger non plus. Et puis dernière diapo, quelle réponse apporter? Donc ça, je pense qu'on va en parler juste après avec la question du projet de loi. Est-ce que légiférer, c'est pas pire que le problème? C'est pas une solution pire que le problème, dans la mesure où on va créer des lois pour faire supprimer des contenus sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas? Sauf que derrière, il y a aussi des formes de délégation de pouvoir de censure à des plateformes privées qui vont supprimer des contenus sans forcément en rendre compte. Sur le plan démocratique, ça peut poser question. Autre acteur qui rentre dans la bataille, les journalistes, les fact-checkers qui vont vérifier les fausses informations, qui vont apporter des démentis. La question étant, quelle efficacité ça a? Là aussi, l'efficacité, elle est limitée dans le sens où les gens qui partagent des fake news ne sont pas le même public qui partage les publications des fact-checkers. Donc, ça ne les intéresse pas vraiment. Cela dit, ce que produisent les fact-checkers a pour intérêt de parler au public neutre, entre guillemets, qui ne partage pas de fausses informations, qui ne partage pas d'informations, qui ne prend pas part au débat, mais qui ne fait que consulter les discussions. Sauf qu'on a tendance à l'oublier, mais ce public, il est largement majoritaire sur les réseaux sociaux. Les gens qui utilisent Facebook comme un navigateur pour regarder ce que postent leurs proches, sans jamais aimer les posts, sans jamais commenter, sans jamais rien partager, bah en fait, c'est eux les plus nombreux. Hein, d'après différentes études, ils sont plus de la moitié. Donc eux, on les voit pas, ils sont pas visibles, sauf qu'ils lisent tout ça. Donc les interventions de fact-checking, ça peut aussi alerter ce public invisible qui est néanmoins nombreux. Autre acteur, évidemment, les plateformes. Facebook a pris énormément de mesures pour lutter contre les fausses informations, avec plus ou moins d'efficacité. Pour autant, les plateformes ont aussi leur responsabilité dans la propagation de ces fausses informations. D'abord dans leur design, hein, on sait que les algorithmes de Facebook, par exemple, vont mettre en avant, vont apporter plus de visibilité aux contenus qui font le plus réagir. Et on sait que les contenus qui font le plus réagir, c'est les contenus qui sont les plus radicaux, les plus clivants, comme on dit maintenant, les plus ceux qui jouent le plus sur l'émotion. Et donc les théories du complot, les fake news, elles sont beaucoup plus dans ce registre-là que les productions des journalistes. Et puis aussi la question du modèle économique qui joue à plein, même si Facebook a annoncé maintenant qu'ils avaient fermé leur régie publicitaire à un certain nombre de sites identifiés comme propageant des fausses informations. Mais c'est facile pour un site qui fait de la fausse information d'utiliser Facebook pour toucher un public très large via les outils de marketing ciblé que j'ai dit auparavant. Hein. Même si vous avez une page où il n'y a que 50 personnes qui vous suivent, bah, il suffit que vous mettiez 100 euros sur la table en disant « je veux parler à 10 000 personnes », ça marche. Et puis, dernier point, la question de l'investissement de la société civile, d'associations qui, eux, ont développé des stratégies de contre-discours, qui mobilisent des citoyens en disant « allez porter le contre-discours sur les plateformes, allez pas uniquement dans le cadre des fausses informations, mais aussi dans le cadre des discours de haine ». Et puis, la question de l'éducation aux médias, évidemment, qui est vraiment essentielle, à la fois à l'école, comment on aménage, comment on modernise, on renouvelle les formes d'éducation aux médias et au numérique, et puis comment on fait sortir l'éducation aux médias des salles de classe pour qu'elles aillent aussi dans la société, dans les espaces publics numériques, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure. Merci pour votre attention. Romain.